Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici donc la dernière séance du séminaire attaché à mon cours de cette année sur les politiques migratoires. J'ai le très grand honneur d'accueillir aujourd'hui Gérard Moreau. Gérard Moreau, à l'intérieur de sa présentation, se présentera lui-même, enfin quelques mots tout de même. Gérard Moreau est une référence pour beaucoup de gens. Il a été directeur de la population et d'immigration, donc l'administration qui, avant sa suppression en 2007 par Nicolas Sarkozy, centralisait un très grand nombre d'actions de la politique migratoire française. Et c'est donc fort de cette expérience qu'il va nous exprimer ses certitudes, mais aussi ses doutes, ses interrogations, avec toujours le recul et le sens critique qu'on lui connaît. Gérard Moreau a aussi été un militant des droits de l'homme, et je crois que c'est un très beau signe pour nous de conclure ce séminaire et l'ensemble de cette année avec une intervention de cette ampleur. Mais comme vous le savez, dans ce cours, j'ai toujours tenu à ce qu'il y ait un certain équilibre entre la réflexion et la recherche empirique. Et aujourd'hui, le pôle empirique, qui n'est pas dénué de réflexion, bien entendu, est représenté par Lionel Rago, que je connais de longue date, qui est un des premiers économistes français à s'être intéressé réellement aux questions migratoires, car pendant longtemps, les économistes ne s'y intéressaient guère. C'était l'affaire des sociologues, des historiens, bien sûr, un peu des anthropologues, mais guère des économistes. Et donc, on lui doit, par exemple, avec Xavier Chojnicki, un petit livre qui a joué un rôle en son temps sur une évaluation critique de tout ce qui se dit sur le coût de l'immigration. Et bien des choses qui sont dans ce livre sont encore valables. Mais Lionel a poursuivi toute une série d'études et d'évaluations. Il est actuellement l'un des principaux économistes, je dirais, avec Hillel Rapoport, du CPI, donc un organisme indépendant, directement rattaché au Premier ministre, à France Stratégie, et qui fait à la fois des expertises et des études sur toutes sortes de questions économiques, mais dans une perspective toujours très concrète et très proche de la perspective de l'évaluation. Donc, en fait, aujourd'hui, ce que nous avons, c'est finalement, je dirais, deux praticiens qui vont nous faire part de leur expérience et de leurs résultats. Et je suis ravi de pouvoir donner la parole en premier à Gérard Moreau.
Bonjour, merci à François Héran de m'avoir sollicité, il en est responsable, mais j'ai été effectivement, je vais le développer un petit peu, un praticien largement empiriste des actions de politique migratoire, puisque le sujet est de parler des politiques migratoires, je vais vous en donner un certain nombre d'aspects à partir de mon expérience et de certaines conclusions que j'en ai tirées. Une politique migratoire, c'est l'antienne constante depuis, presque des décennies, un balancement entre le contrôle et l'insertion ou l'intégration. Une politique migratoire, on le dit toujours, c'est contrôler et intégrer. Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire et comment les politiques migratoires se jouent-elles, en tout cas du point de vue de ceux qui les actionnent? Pourquoi parler d'impasse des politiques migratoires? Bien sûr, pas au sens géographique ou topographique du terme, ce n'est pas l'impasse d'un chemin, mais parce qu'en fait, les politiques migratoires se jouent entre les autorités publiques et les sujets eux-mêmes. On a parfois envie de dire les objets de ces politiques, à savoir les migrants. Et les autorités cherchent à jouer, au sens de la théorie des jeux, avec leurs sujets, et par conséquent, ils cherchent à deviner le jeu des partenaires. D'ailleurs, ce jeu est mutuel, et donc, comme dans un jeu de cartes, il s'agit de savoir comment va être le jeu des partenaires, lequel il va être pour l'anticiper ou le contrôler. Et par conséquent, les mouvements migratoires, en définitive, vu de loin et même de près, c'est une sorte de jeu planétaire entre, d'un côté, les migrants et leurs jeux individuels, leurs initiatives individuelles, et d'autre part, les autorités nationales, d'ailleurs en partie internationales, qui cherchent à les réguler, au sens propre du terme, selon des principes doubles d'ailleurs, et qu'il faut combiner, comme on peut, accueillir et contrôler. Contrôler ou insérer, donc, ça n'est pas seulement une impasse. Il faut contrôler, il faut réguler, je viens de le dire. Mais ces mouvements migratoires provoquent une deuxième question, d'où le deuxième terme de ces politiques, puisque ces mouvements provoquent la résidence durable des immigrés, et ils posent la question, au-delà de leur accueil, du franchissement de la frontière, de leur insertion sociale. Et ces deux questions, migration, mouvement transfrontière et vie sociale dans une société, sont constamment mélangées dans le discours, comme d'ailleurs souvent dans les pratiques et dans les mots. Alors, je vais articuler mon exposé avec une introduction relativement longue pour poser le problème de la fabrique des politiques, vu par un praticien, et notamment vu par celui que j'étais à l'époque, comme directeur de la population en immigration, et d'autre part, aborder de deux manières tout à fait distinctes, d'ailleurs, d'une part le problème de la migration, et d'autre part cette question majeure de l'intégration qui revient dès qu'on a trop oublié qu'il ne suffisait pas de contrôler, c'est-à-dire aujourd'hui et depuis longtemps, de réduire des flux d'entrée parce qu'on en a peur ou pour telle ou telle raison. Et puis je ferai une conclusion rapide en disant qu'au fond, on a un vrai problème entre les praticiens et les chercheurs, qui est de savoir comment ils s'ignorent mutuellement, pour dire ça en souriant, et comment ils se respectent à condition de ne pas être trop près les uns des autres. Le sujet des migrations et des politiques migratoires, c'est un sujet chargé. Tout le monde en parle. On parle de l'étranger. On ne sait pas très bien qui est l'étranger, parce que l'étranger, il fait partie de la vie de tout le monde. On est toujours l'étranger de quelqu'un par cercle concentrique et plus ou moins mélangé, et pas forcément concentrique, d'ailleurs, souvent, qui se coupe d'eux-mêmes. Tout le monde est intéressé ou a peur de l'étranger, le passant, l'humanitaire qui l'accueille, le guerrier xénophobe qui cherche à écarter le migrant qu'il n'aime pas, le philosophe, bien sûr, l'analyste et le statisticien qui cherche à les compter vaille que vaille, le pauvre, l'opérateur public ou privé, politique ou technique, associatif, d'ailleurs, et bien entendu, le politique au sommet ou en bas, je n'en sais rien, mais qui est élu et qui est par conséquent à la fois respecte son électorat, en a peur, cherche à le conquérir et cherche finalement à s'en débrouiller. Il faut donc, quand on parle des politiques migratoires, savoir qui parle, savoir qui agit et d'où il parle, parce que cette intervention de l'observateur, même praticien, déforme, c'est classique en matière du regard, déforme ce qu'il raconte de sa vision. Alors, qui suis-je, puisque je veux dire d'où je parle? Je serai aussi rapide que possible. J'apporte aujourd'hui mon expérience de directeur de la population et des migrations. Je l'ai été pendant 12 ans, à travers trois alternances politiques, comme on dit, de droite et de gauche. Finalement, ce n'était pas toujours très différent. Mais, au fond, ma direction faisait, avec ces dizaines de collaborateurs, de la gamme des outils dont un gouvernement se sert pour conduire une politique migratoire. Là encore, je reste dans le flou, puisque on ne sait pas très bien ce que c'est que la politique migratoire. La DPM était une structure particulière, supprimée, et c'était un mouvement politique clair, je ne sais pas si j'aurai le temps de m'y étendre, elle a été supprimée. Qu'est-ce que c'était que la DPM? D'abord, c'était une direction d'administration centrale. Un directeur d'administration centrale, c'est le délégué du ministre. Il peut signer à la place du ministre, il peut décider à la place du ministre, sous le contrôle du ministre, et par conséquent, il le représente vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis des autres administrations, et vis-à-vis des acteurs partout, tous les acteurs. C'est le représentant du ministre, et le représentant quotidien. Un ministre est occupé par 36 000 tâches, y compris la vie politique globale sur tous les sujets qui relèvent de ses attributions. Le directeur, il s'occupe de son domaine. Et la DPM n'est pas apparue tout de suite dans la construction des politiques. Par contre, elle s'est apparue tout de suite après la Seconde Guerre mondiale. L'idée d'une politique de la population et d'un ministre de la population, il s'appelait comme ça, qui s'était chargé de construire une politique de la population française, mais c'est-à-dire de la population qui vivait en France et qui avait besoin non seulement de se renouveler selon les mouvements démographiques naturels, mais en plus de s'irriguer, si je puis dire, de mouvements migratoires souhaités, en tout cas, pour l'économie et pour tant d'autres raisons. Je pense que le cours de François Héran nous en a appris un certain nombre de choses sur ce sujet. En tout cas, après plusieurs avatars d'organisation administrative, sans grand intérêt, la DPM a été créée en 1965 pour rassembler au sein du ministère chargé de la population un certain nombre d'attributions, d'une part, et en étant face aux autres ministères qui traitaient de questions relatives à ces populations migrantes, notamment le ministère de l'Intérieur, droit au séjour, ministère des Affaires étrangères pour toutes les relations internationales, et c'était l'un des tripodes administratifs de la construction d'une politique migratoire, mais bien sûr, s'agissant de la vie en France, des ministères qui traitent de la vie en France en matière de travail, d'éducation ou de logement. Et la DPM était à l'intersection de tout ça, c'était sa mission, du moins telle que je la concevais à partir des textes qu'il avait créés, et notamment, c'est à elle que l'on avait confié la gestion des acquisitions de la nationalité française, des acquisitions, c'est-à-dire de ceux qui deviennent français, après leur naissance. Après leur naissance. Ce qu'on appelle la naturalisation, mais pas seulement, puisqu'il y a plusieurs dispositifs. Donc, dans la DPM, il s'agissait du P, suivre la population, et à ce titre, le DPM participait au conseil d'administration de l'INED. Mais cela supposait, dans tous les domaines que je viens d'évoquer, dont on voit déjà comment ils s'imbriquent à tort et à raison, un intense travail ministériel, ce qui était compliqué, mais ce qui était très utile, parce qu'il fallait que le ministère de l'Éducation s'occupe de tous ses élèves et ne dise pas « il y a un ministère spécialisé qui va s'en occuper ». Il fallait que le logement, il aurait fallu, parce que ça a été largement compliqué, il aurait fallu que le ministère chargé du logement s'occupe du logement de toute la population, etc. La DPM était au cœur de cette vision, du moins ça a été l'approche que j'ai ressenti et que j'ai cherché à mettre en œuvre, comme d'ailleurs nombre de mes prédécesseurs. Au fond, l'idée centrale, c'est que la migration, c'est d'abord un phénomène démographique qui se combine avec le mouvement naturel de la population. Mais dans ce mouvement démographique, il faut bien s'intéresser à ce mouvement spécifique, le mouvement migratoire, et donc il faut fabriquer une politique. Mais quand on parle de politique, au fond, de quoi parle-t-on ? Souvent, on dit politique parce que tout est politique, parce que les politiques manquent de courage ou sont insuffisants, etc. Au-delà de cette vulgate courante, la politique, c'est toute une série de choses, et parfois on l'oublie ou on fait semblant de l'outiller. La politique, ce sont des paroles, ce sont des textes et ce sont des actions, à tous les niveaux. Au plus haut niveau, celui du gouvernement, celui qu'on vise toujours, la parole et les grandes orientations, les grands textes sont là. En bas, c'est la cuisine. C'est les dossiers individuels, c'est les cas particuliers qui rentrent ou ne rentrent pas dans les moyennes, qui sont en général toujours spécifiques. Et en définitive, on s'étonne parfois des écarts entre la parole des uns et leur action. Ça n'a rien d'étonnant pour qui comprend la fabrique. D'abord parce que, je vais y revenir, le temps joue et il y a des décalages de temps entre la parole et l'action. Et aussi parce que les politiques sont engrenés, et c'est bien normal, dans les systèmes médiatiques de communication, et on peut se laisser prendre à ce décalage entre la parole et l'action pour critiquer l'une et approuver l'autre, ou critiquer les deux, d'ailleurs, en définitive. À la DPM, en fait, tous les niveaux étaient présents, sauf la communication médiatique, de l'international au dossier individuel, du global, le suivi démographique, à la décision de naturalisation des dossiers par dossier, à la fabrique, et comme je le disais parfois, au fourneau des mallettes de dossiers individuels qu'il m'arrivait de trimballer pour les regarder pendant, en dehors des horaires habituels de travail. Alors la politique, on l'oublie encore trop souvent, et c'est très difficile à conduire, c'est une triple tension, une triple dimension. D'une part, dans sa temporalité. La politique s'exerce aujourd'hui et s'exerce pour l'avenir. Et les objectifs que se fixe l'action politique sont décalés dans le temps, échelonnés dans le temps. Réaliser une politique, c'est s'attaquer au court terme de ce qui se passe demain et s'attaquer de ce qui se passe après-demain et même au fil des générations. Donc, et ça passe naturellement par le temps électoral, le temps court et le temps long, s'articulent autour des différentes échéances. Et le politique oublie souvent de le dire ou de le présenter, audace ou difficulté de communication, à savoir qu'il faut trouver un chemin pour arriver à un objectif, même si l'objectif se situe à l'échelle d'au minimum une génération. Et dans le domaine des mouvements démographiques, on est souvent dans cette problématique. La deuxième tension, c'est très bien de parler de contrôle et d'intégration ou d'insertion, mais en fait, il ne faut pas les mélanger. Or, on mélange constamment le mouvement transfrontière et le fonctionnement de la vie collective et de l'établissement du lien social dont dépend l'intégration des immigrés. Je vais revenir à cette idée. Mais on confond les idées et les faits. Franchir une frontière, ça n'est pas habiter normalement dans un pays. C'est deux notions radicalement différentes, très fortement différentes, qui supposent une approche différente. Et la troisième tension, c'est que, et les statisticiens le savent bien, même s'ils parlent plus facilement de moyenne que d'écart-type, parce que l'écart-type est une notion compliquée, ou de dispersion, on ne peut pas oublier que derrière la vision globale des statistiques, des théories, des grands textes, Il y a des personnes qui ont chacune leur vie insérée dans leur passé, dans leur famille, dans leurs racines, et que par conséquent, l'action quotidienne doit considérer l'infinie diversité des situations rencontrées avec lesquelles il faut trancher. C'est l'itération entre le statistique et la réalité de chaque situation individuelle, entre, comme on dit souvent, le macro et le micro, qu'il faut gérer la réalisation d'une politique. Ce sont une autre forme d'impasse entre les politiques migratoires. Alors, je ferai un petit détour sur le fameux débat immigré-étranger qui a émergé à la fin du siècle dernier, d'ailleurs, parce que si la définition statistique est claire, ce qui a émergé, c'était la notion d'immigré. Si la définition statistique d'un immigré est claire, sa signification, son sens ou son utilisation, et a fortiori son utilisation, le sont nettement moins. La nationalité, c'est un élément juridique du statut personnel qui a un effet très clair sur le droit au séjour. On n'a pas de droit au séjour lorsqu'on est étranger, en gros. Un étranger ne peut pas franchir la frontière facilement, sauf accord, sauf particularité. La frontière sépare radicalement l'étranger du national. On sait bien ce que c'est. Un autre effet radical bien connu, c'est les droits politiques. Un étranger, dans un pays démocratique, ou prétendu tel, l'étranger ne vote pas. Il y a des exceptions, les nuances sont infinies dans tous les domaines, y compris celui-là, mais globalement, l'étranger n'a pas de pouvoir politique dans le pays où il réside. Par contre, en s'agissant des droits sociaux, de la vie sociale, de la vie économique, en France, en tout cas, et dans un grand nombre de pays occidentaux de nature démocratique, là encore, les nuances sont infinies, et en France aussi, d'ailleurs, globalement, le principe de base, le principe constitutionnel, le principe des droits de l'homme, il ne faut pas être militant, vraiment, pour le savoir, c'est un principe de droit, c'est le principe de l'égalité de traitement. Et par conséquent, la différence entre étranger et national s'estompe. Et par conséquent, il n'y a plus de distinction, et parler à ce moment-là, introduire les immigrés commence à devenir compliqué. Alors, on a basculé du concept étranger, facile à dire, au concept d'immigré, parce que les étrangers, c'est définitivement peu descriptif, ça s'intéressait à la frontière ou au droit politique, la vie, c'est bien autre chose. On a donc compté les immigrés. Et les immigrés rassemblent, selon leur définition, des personnes nées à l'étranger qui viennent résider en France, mais certains d'entre eux, le temps passant, deviennent français, d'autres pas. Et donc on rassemble dans une même catégorie des gens de nationalités différentes, mais du même coup, on sépare des Français appartenant à la catégorie immigrée et des Français qui n'y appartiennent pas, ou du moins qui n'ont pas franchi la frontière. Parce que leurs enfants qui n'ont pas franchi la frontière font partie de cette fameuse seconde génération, sans parler aujourd'hui, le temps passant, de la troisième, sont bien des Français, ils ne sont pas des immigrés, mais ils sont enfants d'immigrés. Et à dire vrai, ils portent leurs racines culturelles et familiales tout autant que leurs parents, tout autant, parfois même plus d'ailleurs, l'histoire le montre, et par conséquent la distinction immigré-natif, quoi que ce mot veuille dire, et je ne m'étendrai pas parce que c'est un mot compliqué, lui aussi, finit par introduire une distinction qui est problématique et laisse de côté la notion non moins compliquée de distance culturelle, de durée de la pesanteur culturelle, ethnique, religieuse. La religion nous affole aujourd'hui, mais ce n'est pas une nouveauté non plus, dans cette affaire. En définitive, les immigrés, c'est un concept statistique qui n'est pas inintéressant. Il a été propulsé par des gens d'une grande qualité, y compris d'ailleurs à l'époque par la commission de la nationalité que présidait un vice-président du Conseil d'État connu, et ensuite des démographes s'en sont tempérés. Et en même temps, ils ont introduit une distinction entre les Français natifs et les Français pas natifs, comme s'ils étaient différents. Alors qu'en fait, c'est un principe en France, et d'ailleurs dans la plupart des pays démocratiques, il n'y avait pas de distinction à introduire. Et d'ailleurs, il n'y a même pas de distinction, entre parenthèses, avec ceux qui sont restés étrangers et qui vivent, j'introduis la paille, régulièrement en France. Donc, il y a un problème un peu avec les immigrés, il ne suffit pas de les compter pour y voir clair. Alors bien sûr, pour fonctionner dans une politique migratoire, il faut quand même regarder par-dessus son épaule et regarder comment font les autres, comment ça se passe dans les autres pays. Alors, là-dessus, j'ai mon expérience, j'ai présidé des comités de l'OCDE, du Conseil de l'Europe, je suis allé aux conférences mondiales de population. On cause beaucoup et on échange beaucoup. J'ai terminé mon mandat en passant plusieurs semaines dans 6 pays occidentaux et au Canada pour voir comment ils faisaient. Alors, notion d'intégration, il me disait, nous, on n'en a pas d'intégration. C'est parce que c'est que ce mot, c'est encore un mot français, comme la laïcité, gentiment d'ailleurs, la courtoisie est de mise dans les réunions internationales. Mais au fond, quand on leur dit, mais qu'est-ce que vous faites? Ben, il disait, ben, on fait la même chose que vous. On fait des cours d'alphabétisation, on fait de la formation, on essaye de les accueillir, vaille que vaille, plus ou moins bien, mieux que vous peut-être, d'ailleurs, c'est ce que nous pensions. Le problème d'accueil n'était pas le point le plus fort de la politique française de l'époque, et peut-être pas aujourd'hui non plus, mais je serai prudent. Donc, la comparaison était une comparaison passionnante, utile, dangereuse, si on voulait copier au-delà des possibilités. Par-dessus le marché, dans chaque pays, il y a toute une série de distances entre la parole et l'action, entre le vocabulaire et la pratique. L'un des exemples les plus forts a été celui de la politique allemande, qui refusait toute idée d'immigration résidente. C'était l'époque des Gastarbeiter, des invités, tous les étrangers qui venaient. Ils avaient beau, notamment à partir de l'immigration d'origine turque, encore un mot vague, parce que les Turcs, ce n'est pas des Arabes, et puis les Turcs de l'Est anatolien à la péninsule européenne, ce n'est pas les mêmes peuples. Je ne parle même pas des Kurdes, c'est bien plus compliqué que ça, bien sûr. Mais en tout cas, il y avait une immigration turque installée pendant une ou deux générations en Allemagne, pendant très longtemps et jusque dans le début du XXIe siècle. L'Allemagne ne refusait d'admettre dans ses discours qu'il y avait là des résidents dont il fallait s'occuper. Moyennant quoi, ils s'en occupaient très bien. Pas toujours d'un point de vue urbanistique, j'y reviendrai si j'ai le temps, en évoquant l'intégration. Alors, une fois ces paramètres posés, abordons les deux sujets, le contrôle et l'intégration. Donc, la migration d'abord. La migration, là, on est bien dans une politique migratoire. La migration, c'est un mouvement transfrontière de personnes qui vont vers une nouvelle résidence, c'est clair. C'est un paramètre démographique d'ampleur variable, c'est pas ni plus ni moins, et ça n'est pas un problème, c'est un mouvement démographique. C'est comme si on disait que les naissances et les décès sont des problèmes. Oui, il y a des maladies qui sont des problèmes, il y a les naissances problématiques. La migration, c'est un paramètre démographique, c'est un phénomène. C'est un phénomène qui fait partie de la vie des sociétés humaines, à travers, entre le nord et le sud, l'est et l'ouest, un peu partout. C'est un paramètre démographique. Donc, les slogans sur l'immigration à bloquer ou pas bloquer, c'est une plaisanterie verbale, si je puis dire. Malheureusement, pas toujours dit sur le ton de la plaisanterie, mais ça n'existe pas. Comme si on disait que l'année prochaine, il n'y aura plus de naissance, ou il n'y aura plus de décès. Le phénomène migratoire fait partie de la vie des sociétés d'aujourd'hui et même du passé. Seulement, les autorités du territoire d'accueil, elles veulent que ce mouvement ne soit pas désordonné. Elles veulent le réguler, l'astreindre à un certain nombre de règles, et pas seulement d'un point de vue de xénophobe, y compris du point de vue de la sécurité, des conditions de vie, d'une certaine organisation. Il y a donc une bataille, pas une guerre, encore que, une bataille entre ceux qui veulent franchir la frontière pour changer de pays, pour vivre ailleurs, et les autorités qui veulent contrôler, réguler, organiser, donc astreindre à des règles les migrants qui veulent bouger. Mais la volonté des migrants est une volonté quasi existentielle. Ils jouent leur existence dans leur mouvement. Alors que les autorités d'un pays, même s'ils sont policiers, même s'ils sont forces de l'ordre, même s'ils sont des forces autoritaires, ne jouent pas leur existence, en principe. Tandis qu'il y a donc un jeu, je reprends mon terme de jeu, un jeu que je qualifiais souvent à l'époque, je continue d'appeler ainsi, un jeu comme le jeu des enfants entre les gendarmes et les voleurs, mais avec un paramètre déséquilibré, parce que les voleurs, les immigrants sont des voleurs, c'est bien connu, les voleurs n'avaient pas d'autre règle que celle de survivre, et c'est une règle bien plus puissante que les règles juridiques, organisationnelles, bureaucratiques que mettent en place les autorités. Alors les migrants prennent la route. Ils prennent la route lorsqu'ils peuvent se la payer, sinon ils changent juste de pays et passent la frontière entre le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Togo, et ils restent là-bas, ils n'inquiètent pas les pays riches, ou bien ils montent. Ils montent. Oui, ils montent. On dit monter. En fait, ils montent du sud au nord, de l'est à l'ouest, du Sri Lanka ou même d'Albanie vers les pays plus développés et, bien entendu, vers des destinations préférentielles selon les mythes courants. Alors, ils prennent la route. Et on a l'air surpris de temps en temps dans les discours qu'ils passent par l'Est, puis par l'Ouest, qu'ils franchissent les grillages de Ceuta ou qu'ils s'embarquent dans des embarcations dangereuses. Ils jouent leur vie. Alors, on s'étonne également qu'ils choisissent des voies très variées, voies géographiques ou juridiques, celles qui passent le mieux. Puisqu'il s'agit de passer, choisissons ce qui se passe. Il y a eu une époque où devenir étudiant de premier cycle était une bonne méthode. Et d'ailleurs, on faisait des études plus ou moins réussies, étrangers, dans les universités. Alors, il y a eu une époque où on a considéré dans les pays d'accueil que les étudiants étaient une matière dangereuse. On est revenu depuis, je pense que Lionel Rago en parlera, j'espère qu'on est revenu depuis, il y a eu d'ailleurs plusieurs allers-itérations dans ce domaine. Mais il y a d'autres méthodes, on peut se marier, pas forcément en mariage blanc, mais en mariage, y compris mariage d'intérêt, d'ailleurs dans un mariage. Compliqué le mariage, n'est-ce pas? Et puis, au-delà des voies légales que l'on choisit, et je vais revenir sur la demande d'asile dans un instant, il y a les voies illégales. Parce que, puisqu'il faut passer, passons. Et on passe à travers les vies grises de la clandestinité, de l'irrégularité, et c'est comme ça que sont nés, notamment à la frontière franco-anglaise, l'exemple qui dure depuis 20 ans, des bords de la Manche. À Calais, symbole de ce passage, mais on oublie Ostende et on oublie les côtes bretonnes parce qu'on peut aussi franchir la Manche ailleurs qu'à Calais. Alors les autorités sont prises, elles ne sont pas prises, elles ont fait le choix d'une double attitude, du moins les autorités qui se prétendent dans les pays démocratiques et qui prétendent être des États de droit, et qui le sont. Soit elles ménagent les voies d'accès, parce qu'elles ont signé des accords internationaux, parce qu'elles ont des principes humanitaires et humanistes depuis longtemps, depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis la Déclaration de Philadelphie, depuis les Nations Unies, depuis la Convention de Genève, naturellement, et le protocole de New York, qui est au moins aussi important pour les réfugiés ou pas, les autorités ont donc ménagé les voies d'accès. Et donc, pour répondre à ces principes, s'occupent de l'accueil de ces voies légales qu'elles ont consenties, décidées, dans lesquelles elles se sont engagées. Et parfois, quitte à le regretter plus tard, mais elles sont engagées et se dégager des grands principes, c'est toujours difficile, j'ai envie de dire heureusement pour les grands principes, mais c'est comme ça. Mais d'autre part, parce que les flux sont à réguler, à contrôler, parce que les situations économiques sont ce qu'elles sont, elles ont construit des murs directs et des murs indirects, en restreignant les droits, en incitant des visas, en instituant des procédures clairement bureaucratiques, en prenant des attitudes négatives de toutes les manières domaines. Il y a donc une politique de relation qui double. Et même lorsque la communication publique ne joue que d'un volet de ce double aspect, de ces deux aspects qui sont en définitive, qui ont l'air contradictoires, mais qui en fait sont complémentaires et correspondent à différents aspects des mouvements migratoires, le droit de la vie en famille par exemple, il s'agit de combiner tout ça. Aujourd'hui, et depuis longtemps maintenant, depuis 20 ou 30 ans, et ça s'est encore accentué ces dernières années, il y a une politique de freinage, de réduction, de restriction, et par conséquent, il s'agit d'envoyer par la parole, autant que par l'action, autant que par les pratiques, des messages dissuasifs. Et comme on n'arrive pas à fermer les frontières, notamment en France, pays ouvert, géographiquement, de toutes les manières, on essaye d'envoyer les contrôles le plus loin possible à l'extérieur par la politique des visas à demander dans les ambassades à l'étranger, par la politique s'agissant des phénomènes récents de l'asile et des guerres du Proche-Orient, par la politique des hotspots, c'est une politique européenne d'ailleurs, encore que oui, bizarrement, en accueillant et en faisant passer le mot qu'on sera mal accueilli dans le pays, parce que l'hébergement sera insuffisant, parce que les formalités sont compliquées, on passe le message. Et passer le message, et de ce point de vue-là, fait apparaître l'aspect performatif du discours. Il s'agit d'avoir un discours qui décourage, même s'il n'y a rien derrière qui le fait, même si on a un dispositif d'asile, je vais y revenir, qui est parfait, on passe le message que ça va mal marcher, que ça va être très dur et très pénible. Et du même coup, ce faisant, on a créé une population irrégulière, une société informelle, mal mesurée d'ailleurs, mais qui encourage une xénophobie ambiante, puisque les pouvoirs publics le disent, c'est que les étrangers sont dangereux. En Europe, c'est la même chose, un des grands acquis de l'Europe, ça a été l'accord de Schengen. Aujourd'hui, les Européens voyagent sans difficulté Aller à Berlin est aussi compliqué ou simple que d'aller à Marseille. Il n'y a pas de contrôle. La pandémie a rajouté un certain nombre de sous-contrôle. Mais il n'empêche qu'en Europe, les élections nationales, les attitudes nationales sont devenues de plus en plus restrictives. Alors, un détour qui n'en est pas un, la grande confusion de l'asile. Alors, effectivement, les guerres du Proche-Orient, du Moyen-Orient, d'Afrique, les guerres internes de l'Afrique, et les situations difficiles en Europe même, beaucoup de demandes d'asile l'année dernière venaient de l'Albanie, pas si loin de chez nous, il y a eu un afflux de demandes d'asile. C'est l'une des routes des migrants que j'évoquais tout à l'heure. Et par conséquent, on s'est aperçu, les migrants en premier, les autorités ensuite, que ce droit d'asile immémorial consolidé par la Convention de Genève ouvrait une voie d'entrée et qu'on passait d'un niveau autour de 30 à 40 000 demandes d'asile par an à un niveau qui a atteint en 2019 180 000, même si la fermeture des frontières liées au Covid l'a fait baisser cette année, en 2020, semble-t-il, à un niveau très inférieur. On a donc cherché à fermer les frontières, à fermer la frontière aux demandeurs d'asile par toute une série de dispositifs et en refusant naturellement qu'il y ait une vision communautaire ou européenne pour que chaque pays garde sa souveraineté, mais nous n'allons pas parler d'Europe ici, ou du moins pas sous cet angle. Donc, on a créé et on a fabriqué, et la France en est un exemple difficile, trois zones grises. D'une part, une demande d'asile qui ne s'enregistre pas, des gens qui arrivent en France, qui ne veulent pas demander l'asile ou qui n'y arrivent pas. Ou qui n'y arrivent pas parce qu'ils n'arrivent pas à obtenir de rendez-vous, ils n'arrivent pas à déposer leur dossier, ils n'arrivent pas à faire un dossier complet, donc leur demande n'aboutit pas. Ils changent d'avis d'ailleurs parfois. C'est la première zone grise de demandeurs d'asile qui ne sont pas décomptés, évidemment, dans les flux migratoires. Ils voudraient sans doute résider, mais ces gens-là sont ailleurs. Et comme ils ne déposent pas de demande d'asile, ils ne sont même pas décomptés dans les dossiers déposés à l'OFPRA. Alors ensuite, il y a ceux qui demandent l'asile quand même et qui l'obtiennent, c'est-à-dire qu'ils ont un dossier à l'OFPRA. Alors là, la Convention de Genève exige un certain nombre de droits sociaux minimaux, donc il faut les loger, les héberger, leur donner un minimum de ressources parce qu'ils n'ont pas le droit de travailler, et se crée une deuxième zone grise pendant la période de procédure. Ça fait environ plusieurs années qu'on dit qu'il faut la réduire à 6 mois, elle est aujourd'hui de 12. C'est un bon objectif qui est très difficile à réaliser pour des raisons que je ne développe pas ici. Donc il faut s'occuper. Alors tout ceci, ce sont des spectacles, si je puis dire, auxquels j'ai participé, parce que le DPM, comme je le disais, était membre du conseil d'administration de l'OFPRA. Il gérait des crédits de centres d'hébergement pour accueillir les demandeurs d'asile. Mais ces demandeurs d'asile, sans droits et sans ressources possibles, il ne fallait pas trop se demander comment ils faisaient pour vivre avec 400 euros par mois ou en hébergement sans allocation. Troisième zone grise, c'est que lorsque la majorité des demandes, et c'est encore le cas en France, et même si ce n'est que la moitié, c'est pareil, est rejetée, que deviennent les rejets ? Ils perdent évidemment tout droit au séjour et ils sont une zone grise. Que deviennent-ils ? C'est une zone grise que ne cerne évidemment absolument pas la statistique. Certains d'entre eux rentrent dans la catégorie des reconduits à la frontière s'ils sont repérés et attrapés. D'autres disparaissent quelque part ou restent ou s'en vont, on ne sait pas. Il y a une sorte de mouvement brownien d'irréguliers, par définition de non-immigrés, qui sont rejetés. Et en définitive, quand on parle de l'asile aujourd'hui, on parle de ces trois zones grises, à la fois, et des réfugiés statutaires, parce qu'il y a aussi des réfugiés statutaires, de gens 35, le tiers, disons, des demandes d'asile en France, qui deviennent des réfugiés statutaires ou qui sont sous protection de la loi française, qu'on appelle la protection subsidiaire. Et ces gens-là sont des immigrés. S'agissant des réfugiés, ils sont même, grâce à la Convention de Genève, ils sont même assimilés au national, comme on dit. Ceux qui sont protégés par la protection subsidiaire sont des immigrés ordinaires, ils ont un droit au séjour, et cela pose les problèmes de gens qui résident en France. Mais ils sont intéressants parce qu'ils montrent combien l'asile fonctionne. Sauf que ce n'est que le tiers des demandes et qu'une fraction inconnue de ceux qui résident quand même en France et qui bougent d'ailleurs et qui vont d'une frontière à l'autre. Alors je passe là-dessus très rapidement. L'asile pose donc 4 dossiers quasi impossibles, comment les héberger ? À l'époque de mon mandat, il devait y avoir 6000 places d'hébergement pour les demandeurs d'asile. Aujourd'hui, il y en a plus de 100, il y a presque 110 000 de toutes sortes. Qui le sait, sinon les lecteurs de rapports illisibles au Parlement ? Parce qu'aucun gouvernement ne s'en vante. Et pourtant, il y a une véritable politique d'hébergement, insuffisante, parce que toujours décalée, et avec le risque et cette grande peur d'un phénomène que les cours de François Héran ont éclairé, à savoir l'effet d'appel. le fameux effet d'appel. Qu'est-ce qui se passe autour de l'effet d'appel? Si on est, est-ce qu'on n'attire pas les gens? Est-ce qu'il n'y a pas un flux d'aspiration dans les pays qui seraient plus souples que d'autres? Aucun des pays d'Europe n'a la même attitude par rapport à ce phénomène, de la Hongrie à l'Allemagne, en passant par la France, le Danemark, la Suède. D'ailleurs, il y a des revirements d'un pays à l'autre et selon les majorités politiques. Donc l'hébergement, comment faire? Comment s'en débrouiller? Les mineurs non accompagnés, beaucoup de jeunes de 15 à 18 ans, et peut-être de 15 à 21 ans, on ne sait pas, en gros de jeunes, viennent, envoyés souvent par leur famille, prennent la route parce qu'ils en ont le courage et la force physique, financés par leur famille. Mais sont-ils vraiment mineurs ou sont-ils majeurs? Les droits ne sont pas les mêmes pour les mineurs et pour les majeurs. Je ne développe pas la législation française dans ce domaine. Troisième sujet, la Convention de Genève, c'est bien beau, mais elle ne s'applique pas de la même manière en Pologne et en France, aux Pays-Bas et en Espagne. Par conséquent, il y a un phénomène assez bizarre qui fait d'ailleurs, et qui a déclenché il y a une vingtaine d'années la Convention de Dublin, que les demandeurs d'asile cherchaient les étrangers, les migrants, cherchaient le pays qui accepterait leur demande et faisaient le tour d'Europe des procédures. Quelle horreur ! Toujours le jeu des gendarmes et voleurs. Et pour freiner ce tour d'Europe, on a signé des accords de Dublin réglementés par la communauté européenne en disant qu'un seul pays était responsable et que les autres n'avaient plus besoin d'examiner la demande ensuite. Bon, et donc ça ne fonctionne pas. Parce que lorsqu'on repère, par exemple, à Calais, un demandeur d'asile qui a vu sa demande refusée en Allemagne, il faut le renvoyer en Allemagne. Et si l'Allemagne conteste l'avoir reçu, le demandeur d'asile reste en France. Et donc on ne sait pas très bien comment gérer le dublinage des demandeurs d'asile. Et dans les décomptes des demandeurs d'asile, qui ne sont pas dans les flux migratoires et dans les statistiques de migrants, bien sûr, on distingue mal les dublinés, des non-dublinés. Au total, par-dessus le marché, dans ce grand globi-boulga, diraient les enfants, dans ce grand mélange entre demandeurs d'asile de différents types et les réfugiés statutaires, qui d'ailleurs, le temps d'examen de leurs demandes et le temps qu'ils s'installent, habitent dans les centres d'accueil des demandeurs d'asile, auxquels ils n'ont plus droit, mais on ne sait pas où les mettre, puis cause logement. On finit par parler en même temps et dans le même discours, regardant les textes officiels, les textes et discours, la parole, on finit par passer en même temps la qualité de l'accueil des réfugiés statutaires et la difficulté de traiter les demandes d'asile, comme si les deux catégories étaient analogues. Ça n'a rien à voir. La procédure de demande d'asile, qui est très réglementée, que je résume dans cette diapositive, à travers l'examen par l'OFPRA, la Cour d'appel, qui est la Cour nationale du droit d'asile, en attendant les recours juridiques devant le Conseil d'État, si ça se présente, assez rarement, mais ça arrive, il existe un temps long et complexe avant d'arriver à un statut protégé, protection subsidiaire, je l'ai évoqué tout à l'heure, ou statut de réfugié. Et cette distinction est constamment mélangée dans la même fiche statistique, y compris celle du ministère de l'Intérieur, telle que celle qui vient d'être publiée il y a quelques jours, pour analyser provisoirement les flux migratoires de 2020. Voilà ce que je voulais dire sur la construction de la politique de contrôle. Alors, est-ce alors la grande question de l'intégration ? Au moins, les réfugiés, ce sont des personnes régulières, assimilées au national. Il faut qu'ils vivent en France, ils sont appelés à résider. Ce sont de vrais immigrés, si je puis dire. Ce n'est pas les zones grises que j'ai évoquées tout à l'heure. Alors, je ne rentre pas dans le débat de ce qu'il faut appeler l'intégration. C'est un débat sémantiquement intéressant, rempli de références que l'on peut distinguer. C'est un débat sémantique assez passionnant. Mais, à mon avis, il n'a pas de pratique opératoire. L'insertion qui était vantée en 81 par la première alternance de gauche, on parlait d'intégration à l'époque, s'est transformée en intégration le jour où un député RPR a dit « Non, il faut avoir une notion plus large, il faut parler d'intégration, supposée plus large que l'insertion. » Quand j'essayais d'expliquer ça à mes interlocuteurs étrangers, ils ouvraient des grands yeux en disant « Mais cette différence, on ne la comprend pas, il faut vivre parmi nous, bon, parfait. » Ou alors on me disait « Alors, c'est mes correspondants, par exemple, allemands, l'intégration, il n'y a pas d'intégration chez nous. Ça n'existe pas. Ce ne sont que des invités. Bref, je ne rentrerai pas dans ce débat sémantique. Par contre, il y a un débat qui est un débat politique central. C'est que qui ça concerne? Est-ce que l'intégration, c'est un devoir des immigrés? Ou est-ce que c'est, autre chose. Et ça, dans la Vulgate actuelle, et dans la, et je dirais même dans les textes actuels, venant des meilleurs esprits du monde, on parle de l'intégration des immigrés. C'est aux immigrés à devoir s'intégrer dans une société d'accueil, comme si c'était un objet qui rentrait dans une boîte fixe. Et donc une sorte de devoir d'intégration auquel on assigne les immigrés. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et ça n'est même pas juste de dire qu'il faut que ça se passe comme ça, à mon avis. Et donc j'ai toujours résisté à cette espèce d'assignation qui soit redondante, parce que si c'est pour dire qu'un immigré doit respecter la loi du pays d'accueil, on perd son temps. Il n'y a pas de transaction possible. Un immigré qui réside en France obéit aux lois françaises. S'il vit en Allemagne, il répondra aux lois allemandes, etc. Ou alors, c'est différent, parce que ça devient obscurantiste, comme si, encore une fois, on plaçait une sardine dans une boîte et que c'était la sardine rentrée au calibre de la boîte. Et donc, on a commencé, en liant ces deux questions, on a commencé à introduire un discours politique que je trouve douteux et confus, qui consiste à dire « on va s'occuper de l'intégration des immigrés lorsqu'on aura résolu le problème de la frontière ». Et comme on ne résout jamais le problème de la frontière, on ne résout jamais, même vu de cette manière erronée, on ne résout jamais le problème de l'intégration, ne serait-ce que d'ailleurs parce que l'intégration est mal conçue, telle que dit. Alors, on a institué, au début des années 2000, l'idée qu'il fallait bien accueillir les migrants qui étaient régularisés, qui étaient réguliers, qui étaient prêts à devenir des immigrés, qu'on allait autoriser, et on allait leur fournir un cours d'instruction civique pour qu'ils connaissent les valeurs et les pratiques de la société française. Pourquoi pas? C'est une bonne idée, la République française ascétique, et ses heures et ses bonheurs, que d'ailleurs recherchent les migrants qui veulent s'y installer. Donc leur faire passer une journée, deux journées, trois journées, à leur expliquer la France, difficile mais possible. Et d'autre part, s'ils ne parlent pas français, c'est pas mal de leur offrir des cours de français, des cours de langue. On vit mieux dans un pays dont on parle la langue que quand on ne le parle pas. On est fini par être navré d'énoncer des évidences, mais c'était une vraie chose. L'alphabétisation est une pratique ancienne dans les pratiques sociales de la France. Mais on en faisait une pratique financée pour accueillir dans des cours de français ceux qui en avaient besoin. Donc on a créé l'idée d'un contrat d'intégration. Malheureusement, à partir des années 2005, le contrat d'intégration s'est perverti en devenant une sorte de haie en dehors de laquelle on n'obtenait pas facilement la carte de séjour. Donc c'est devenu une formalité quasi bureaucratique, et du même coup on l'a perverti parce que lorsqu'il faut certifier de l'assiduité d'un étranger dans un cours d'alphabétisation ou de français, et que de cette certification dépend le droit au séjour de l'étranger, c'est-à-dire le fait qu'il passe de l'enfer du bonheur des réguliers à l'enfer des clandestins, le certificateur devient un verrou extérieur à la police des frontières qui pervertit le système. Alors il faut revenir à une autre définition de l'intégration, et la question que j'ai toujours trouvée triste, c'est qu'elle n'est pas nouvelle, cette autre définition de l'intégration. Sous le gouvernement Rocard a été créé le Haut Conseil de l'intégration, avec un certain nombre de hautes personnalités qui n'étaient rien, qui n'étaient ni militantes, ni certainement pas gauchistes, c'était des gens nobles, ce n'est pas de dire du mal d'eux que d'y penser, a été sortie une définition qui disait qu'il s'agissait, dans l'intégration, de, je cite la phrase, de susciter la participation active à la société nationale d'éléments variés et différents, tout en acceptant la subsistance de spécificités culturelles, sociales et morales, et en tenant pour vrai que l'ensemble s'enrichit de ces variétés. Cette définition ne porte pas le mot étranger, ne porte pas le mot origine, il distingue simplement et il affirme que l'existence d'une diversité peut concourir et doit concourir à l'ensemble. Malheureusement, cette définition est largement oubliée dans les discours aujourd'hui encore, et pourtant ça me semble la seule juste, puisque, au fond, l'intégration sociale, ce qu'on appelle souvent le lien social, s'inscrit dans la durée, dans les vies individuelles et collectives des générations successives, dans l'histoire des sociétés, même si les cultures qui sont ancrées dans les territoires ne disparaissent presque jamais. Pour les Alsaciens, ce qui est de l'autre côté des Vosges n'est pas encore tout à fait la même chose que ce qu'on vit en Alsace, et on pourra en dire autant d'autres régions françaises. Alors, naturellement, c'est encore plus vrai d'un homme qui vient du Rwanda ou du Burundi, ou c'est encore plus vrai de quelqu'un qui ne s'y retrouve pas entre les différentes tendances, des différentes tendances musulmanes, et je ne parle pas d'ailleurs des autres tendances qui existent dans les autres religions, le phénomène religieux s'interprétant là-dedans. Donc, une action politique d'intégration doit viser à améliorer l'intégration sociale et le lien social dans la diversité économique et culturelle qui doit s'inscrire dans l'éducation, dans le logement, dans l'emploi, dans la vie personnelle, dans la famille, se construit dans un ensemble. Le but, c'est l'égalité des chances. Dans un pays, ça devrait être l'égalité des chances, on n'y arrive pas, mais on peut essayer. À travers la diversité des conditions, l'un des phénomènes centraux dans cette affaire, souvent négligé, c'est le phénomène spatial, le phénomène territorial. Les statistiques nationales, globales, qui mélangent les banlieues et les centres-villes, qui mélangent les campagnes et les métropoles, sont, de ce point de vue-là, ratent quelque chose, mais ce n'est pas indifférent, évidemment. Alors, tous les pays développés ont un équivalent des politiques d'intégration. Ils cherchent, comme ils peuvent, comment on peut développer ce lien social. Et encore une fois, l'approche par l'origine étrangère, s'il crée des spécificités culturelles, certaines visibilités qui ne sont d'ailleurs pas propres aux étrangers, faut-il le rappeler, tout ceci concourt à ce que devrait être une politique d'intégration, c'est-à-dire pas une politique migratoire. Et je conclue en disant que dans toutes ces réflexions, une autre caractéristique, elle est carrément absente des politiques migratoires, c'est un intérêt suffisant pour développer le lien entre les acteurs et les praticiens, comme le disait François Héran tout à l'heure, et les chercheurs et les connaisseurs, le milieu académique. Le milieu académique s'est beaucoup enrichi en 40 ans. Il y a 40 ans, il devait y avoir un ou deux chercheurs intéressés par le phénomène migratoire à l'INED, j'exagère à peine. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus, et beaucoup plus à l'INSEE. À l'INSEE, pendant mon mandat, j'avais un correspondant à l'INSEE qui s'intéressait. Les autres aussi, la hiérarchie s'intéressait forcément, on s'intéresse à tout alors, quand on est en hiérarchie. Mais il y avait un statisticien qui était mon correspondant pour exploiter en seconde exploitation les recensements de la population. Aujourd'hui, l'INSEE pilote l'enquête Théo avec une pléiade de personnes compétentes et intéressées, mais on est encore assez loin de la Direction générale des étrangers en France qui a rassemblé vaille que vaille trop de compétences dans le domaine migratoire, et par conséquent, comment ça infuse entre les deux milieux, je crois qu'on a là un vrai pantosane, une vraie question pour l'avenir. Alors, les statisticiens font tout ce qu'ils peuvent, ils ont cherché, parce qu'on ne vit pas sans chiffres. Scipio parlait de la loi des nombres, de la gouvernance par les nombres. Il y a une gouvernance par les nombres, malheureusement souvent dans le mauvais sens du terme, parce que ce sont des nombres qui ne traduisent rien ou qui ne traduisent que des choses artificielles. Les indicateurs d'intégration sont à la fois une nécessité inévitable, comme la notion d'immigré, on n'y coupe pas. Mais en même temps, ils sont pauvres. Je viens de voir récemment que Laure Dassault a beaucoup travaillé sur les couples mixtes, mais les couples mixtes, c'est un sujet complexe. Ce n'est pas simplement un nombre de mariages par nationalité. C'est au contraire un sujet de méfiance, autant que de connaissance. Donc, approfondir ces notions et faire passer ces notions auprès des praticiens qui n'ont pas le temps de lire les recherches qui leur sont pourtant consacrées, pose une véritable question. C'est ce qu'on appelle en sociologie administrative le fonctionnement en silo. Il y a aussi des silos de chercheurs et des silos de praticiens qui se parlent, mais insuffisamment. Il aurait dû y avoir au séminaire de François Héran 15 personnes de la Direction générale des étudiants en France, des étrangers en France, ça aurait été intéressant. Et sans doute d'ailleurs de l'action sociale, ça aurait été intéressant. Ils auraient appris beaucoup de choses. Je pense, ou je me trompe, auquel cas je ferai amende honorable auprès d'eux s'ils y ont assisté. Mais ils n'ont pas le temps en général. Bref. Il faut distinguer les recherches de connaissances, comme toute vraie recherche qui n'a pas de but opérationnel. Elle cherche à apporter de la connaissance, à éclairer un pan ou l'autre de la réalité. Ça n'est pas une étude opérationnelle qui consiste à évaluer une action, à voir si on a des bons points de repère, si ce qu'on est en train de chercher n'est pas complètement absurde ou à côté de la plaque, parce que ça n'est pas la même chose que de s'occuper de Chinois qui viennent d'un groupe de villages d'une communauté chinoise quelque part auprès du Yangtze-Kiang, ou si ça vient d'un groupe de villages sénégalais du fleuve Sénégal, qui sont des Peuls ou qui sont des, et qui n'ont rien à voir avec les Dogons d'une autre fraction du Mali. Et si on cherche à dire tout ça, c'est pareil, on est sûr de tomber à côté de la question. C'est... Bref, je ne développe pas, je crois qu'il y a là un pan d'avenir, ce qui me permet de conclure tristement, d'une certaine manière, comment les choses tourneront-elles. Tout dépend naturellement de la situation globale des différents pays, de leurs liens et des liens qui se créeront, d'une conjoncture internationale qui peut être dominée sur le plan économique ou se dégrader sur le plan social. Savoir si une forme de xénophobie trop ambiante l'emportera et freinera les choses, ou si au contraire, une fois la pandémie améliorée, nous pourrons trouver un autre mode de dialogue, il ne reste sans doute qu'à l'espérer. Quel est l'avenir? Je concluais en rajoutant ce mot incertain entre deux eaux. À chacun de faire des efforts, il faudrait réfléchir aussi, et je l'ai très peu mentionné, aux réactions du monde bénévole, du monde associatif, qui est en général ligué contre la vision policière ou dure des gouvernants légitimes dans la régulation de mais qui la contestent. Et ce monde humanitaire cherche à y concourir, mais souvent en provoquant des effets contraires. Donc comment tout ceci peut-il se rabouter? C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est, je crois, la véritable question, non seulement d'aujourd'hui, mais en tout cas des années qui viennent. Je vous remercie.